la grande fuite, la radio.
La seule émission qu'on cherche.
Qui se barre.
Qui fugue.
Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur La Grande Fugue pour cette deuxième émission sur le thème de la santé mentale et de la ville, enregistrée pendant les rendez-vous de l'histoire du 12 octobre 2024. Bonne écoute.
La Grande Fugue, la radio.
Bonjour à tous, chers auditeurs, chères auditrices, chers festivaliers. Nous sommes chaleureusement invités dans les rendez-vous de l'histoire sur le thème de la ville. Et par cette émission en deux volets, nous parlerons de la ville et de la santé mentale. Nous sommes à Blois, dans les locaux de l'Université François Rabelais. Nous sommes dans une salle de classe transformée en studio radio. Et nous voyons derrière les baies vitrées les historiens et historiennes d'un jour qui déambulent pour tous profiter de leur magnifique rendez-vous avec l'histoire.
La Grande Fugue, la radio.
Une radio collective,
la classe.
Voici maintenant le premier volet sur la ville et la santé mentale, avec autour de moi le docteur Fontaine, bonjour.
Bonjour Anaëlle.
Gaël et Nicolas, qui présente le livre de M. Fontaine sur Maurice Olivier. Et il y a Théo aussi.
Bonjour, moi c'est Théo Cook.
Bonjour, docteur Fontaine. Vous avez écrit un livre sur Maurice Olivier, ancien directeur de la clinique psychiatrique de Blois et maire de Blois durant 15 ans avant la guerre, et aussi fondateur de la clinique de Sommery. Il a au cours de sa vie rassemblé deux figures qui peuvent paraître opposées, le médecin qui soigne les individus et le politique qui administre la cité. Cependant, rapprocher ces deux fonctions obéit à une certaine logique. La qualité de vie dans la cité a une influence sur la santé de ses habitants. Vous êtes médecin psychiatre dans la clinique que Maurice Olivier a fondée en 1938. Comment en êtes-vous arrivé à vous intéresser à ce personnage ?
Ah, c'est une question qui, je vous remercie de la poser, parce que moi-même, je continue à chercher la réponse. Il y a des réponses, évidemment, sur le plan personnel, une histoire de vie, de famille. Mais il y avait surtout dans l'histoire de la psychiatrie du Loir-et-Cher un trou. Et un trou dont la réponse ne me satisfaisait pas, c'est que Sommery, quand je suis arrivé en 1994 pour des premiers remplacements, on me racontait toujours le départ de Jean Houry pour fonder la clinique de la Borde à Courcheverny en 1952. Et ça me laissait un goût d'insatisfaction. Et en 2018, on a fait un colloque intitulé « L'intelligence traumatique ». Et j'ai trouvé dans les greniers un tas de cartons. Un tas de cartons que je connaissais depuis 10 ans, mais que je n'avais pas exploré. J'étais resté en surface. Et en 2018, alors que je cherchais vraiment des informations sur le fondateur et je ne trouvais rien, j'ai plongé un peu plus loin dans le tas de papiers et j'ai trouvé toutes les archives. Les archives militaires, les archives de la ville de Blois, des dossiers du 19e siècle d'anciens patients de l'asile que Maurice Olivier avait soigné, des lettres de poilus, des photos, tout un tas de documents qui me donnaient l'occasion finalement de redonner l'histoire des origines de cet établissement, mais aussi de reparler de l'histoire de la psychiatrie pendant toute la première moitié du XXe siècle. Et puis, par un concours de circonstances tout à fait étonnantes, je reçois un appel téléphonique d'une dame qui me demande des informations sur son arrière-grand-père. Et à partir de ce moment-là, on a noué une connaissance avec la famille et on a échangé des photos et des informations. Et ça m'a donné envie d'écrire l'histoire de l'établissement créé en 1936 dans un autre château, mais qu'il a déménagé en 1938 à la clinique de Sommery. Et puis, je suis allé fouiller dans les archives départementales, croiser les données et les papiers que j'avais, scanner, demander à des patients de décrypter des lettres. Et du coup, ça a donné matière à un ouvrage. Et maintenant, on a un continuum de l'histoire de la psychiatrie dans le Loir-et-Cher. Il manquait un bout, partiellement déjà travaillé par le docteur Préel dans sa thèse de médecine. Mais là, ça donnait aussi, ça redonnait l'histoire de la clinique de Sommery par son fondateur, avec des photos, avec des histoires. Donc c'est comme ça que ça s'est créé, ce livre.
Vous parlez du coup de l'histoire de la fondation de la clinique de Sommery. Avant ça, Maurice Olivier était directeur, médecin aliéniste et directeur de l'asile de Blois. L'asile de Blois, vous décrivez comme un lieu accueillant jusqu'à 2000 patients. Ça me paraît énorme. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce que c'est qu'un asile à ce moment-là ?
En 1901, il arrive dans cet asile départemental. Et l'asile départemental, en effet, abrite beaucoup de monde, des malades et puis les professionnels qui sont des gens de l'église, puisqu'il y a une chapelle, il y a des offices. Il y a aussi des petites maisons cossues pour les personnes qui peuvent payer des serviteurs. Il y a des salles communes, il y a des champs, il y a des arbres fruitiers, il y a des cochons, il y a des vaches. Il y a là, au fond, au cœur de la ville, ou en périphérie, je ne sais pas quelle est l'étendue de Blois à cette époque. Hein. En tout cas, il y a une grande ferme départementale qui nourrit de façon quasiment autonome les gens qui sont soignés et les gens qui sont soignants. Donc on a un grand village inséré dans une ville en développement. Et ce village est traversé par des malades qui rentrent, qui sortent. Alors, il y a la Première Guerre mondiale qui arrive là-dessus. Et ça va créer un déclin de l'asile. Ce qui fait que Maurice Olivier, après la Première Guerre mondiale, où il a commencé à soigner des poilus, des psychotraumatisés, il va redresser l'asile et ce sera un des éléments qui vont le faire élire maire de Blois en 1925 parce qu'il aura redresser les comptes de l'asile. Mais depuis 1860, l'asile était une entreprise, on pourrait dire, économique et participait au tissu socio-économique de la ville de Blois. Et c'est important de le penser parce que c'était une petite entreprise qui produisait aussi de l'agriculture. Voilà, donc vous avez un asile finalement qui est un village. Et mais c'est aussi la tradition des grands asiles depuis la Révolution française et même un peu avant, puisque Kremlin-Bicêtre, Salpêtrière, Père-et-Vaucluse sont des grandes fermes où on met les fous, mais où aussi on produit.
Maurice Olivier est devenu maire de Blois en 1925. Quelle influence ce maire socialiste a-t-il eu sur le développement de la ville dans l'entre-deux-guerres ?
Ah bah c'est une question compliquée qui doit faire normalement l'objet d'un second livre, puisque je me suis penché dans ce premier ouvrage sur l'œuvre médicale. Alors, le titre de mon ouvrage, « L'optimisme au chevet de la déraison », ce n'est pas tellement dans l'air du temps. Hein, c'est on est plutôt pessimiste actuellement. C'était pour reprendre des termes de Maurice Olivier, qui lui donc avait perdu 2 enfants sur 4, avait rencontré la Première Guerre mondiale et construit un premier dispensaire au front dans la Somme, et ensuite dans un centre à Montpellier avec des collègues accueilli des poilus traumatisés. Et au contraire de beaucoup d'endroits pendant la Première Guerre mondiale, ces poilus-là ont été considérés, ils étaient triés en fonction de leur maladie, leur lésion ou leur non-lésion. Et Maurice Olivier s'occupait des non-lésionnels, c'est-à-dire des malades qui présentaient des symptômes, des blessés de guerre, sans avoir aucune blessure corporelle. Et dans ce centre, ils ont mis en place une méthode pour considérer ces blessés comme des vrais blessés. C'est-à-dire que ce n'était pas des fuyards ou des simulateurs. Et ils ont obtenu un taux de réhabilitation après-guerre plutôt positif. Donc le dépassement, il est là. C'est de pouvoir faire quelque chose à tout prix, hein, et présenter le soutien, tendre une main, quoi qu'il arrive. Ça, c'est un dépassement et c'est vraiment au chevet de la déraison humaine qu'il faut tenir cette position. Et les asiles, si on leur met une dose bien pensée de travail collectif et individuel, les deux se croisant, eh bien, je pense qu'on peut, soigner la détresse profonde. Alors, à côté, il y a l'œuvre politique, socialiste. Forcément que la qualité de l'un a influencé la qualité de l'autre. J'ai d'ailleurs posé la question à l'actuelle maire Marguerite Court, en quoi le fait d'avoir été infirmier psychiatrique peut-il influencer votre gestion municipale ? Il n'a pas répondu dans la préface. Peut-être on en discutera de vive voix. Mais probablement qu'être traversé par le soin à l'individu donne un peu une idée du soin au collectif. Alors cette question d'être directeur d'asile et maire, elle a été posée au moment de son élection par un député qui s'appelait Georges Legros et qui interpelle le préfet en disant « Mais monsieur le préfet, ne va pas-t-il y avoir incompatibilité d'exercice de maire avec toute la charge d'âme des citoyens, de la population, et la charge d'âme des patients de l'asile ?» La question sera renvoyée au docteur Legros, qui était médecin généraliste dans le sud du département et député, en disant « Ne vous inquiétez pas, le maire a toutes les compétences requises pour s'occuper des deux. » Voilà, donc, il a contribué à rénover les écoles, il a modifié des rues, il a aussi écrit des articles pour développer l'économie de Blois. Il y a un beau journal de l'illustration sur les villes du Loir-et-Cher, dans lequel il dit et il vante les bienfaits de Blois à avoir un asile de traitement moderne de la psychose. C'est texto dans le texte, c'est-à-dire qu'il vante sa ville avec le soutien de son travail psychiatrique. Donc c'est pas souvent quand même qu'on attire les investisseurs économiques en disant « mais il y a un très bel asile ». Mais vous voyez, c'est important comme donnée. C'est-à-dire qu'il était quand même marqué par le souci de s'occuper un peu des personnes vulnérables. Alors, vous verrez dans le livre, si vous le feuilletez, que ça s'inscrit dans une histoire personnelle familiale. Hein, il avait des ancêtres politiciens, socialistes, et il avait aussi un grand-père maternel qui avait été assassiné par un de ses patients qu'il avait soigné le matin même.
Donc on va revenir à la clinique de Sommery. Et donc Théo va nous présenter, on a un petit micro-trottoir que Théo va nous présenter.
Pour le micro-trottoir, nous sommes allés à Wissau pour interroger les personnes de la commune. On a fait une interview sur l'épicier, la boulangère et les personnes de la commune. Et nous voulions savoir ce que les personnes percevaient sur la relation des patients. Et nous avons eu un petit problème. On n'a pas pu utiliser tous les interviews parce qu'on a eu le son trop bas.
Vous n'avez pas vu à la réunion l'autre fois
Je la connais, la dame.
Ah oui?
Oui. On va pas reconnu. Bonjour.
Vous vouliez quelque chose peut-être?
En fait, on fait un micro-trottoir parce qu'on a une émission au rendez-vous de l'histoire sur le thème de la santé mentale et de la ville.
Oula.
Et l'idée, c'était de poser 2-3 questions aux gens du village parce qu'on est de la clinique de Sommery.
Ah bah c'est
la santé mentale, la santé. Ça va, c'est, voilà. C'est au programme du gouvernement, ça.
Oui, c'est ça. C'est pour ça que vous posez la question. Oui.
Non, c'est parce que c'est au programme des rendez-vous de l'histoire, mais.
Ça dure trois.
Il y a 5 questions.
Ah oh bah ça va. Alors allez-y, voilà. Parce que
oui, il fait pas.
La clinique de Sommery est ouverte en 1938. Connaissez-vous son existence?
Oui. Oui, on connaît. On a eu la chance de pouvoir faire des événements dans le parc avec l'association FEH, Fête des enfants Ussellois à l'époque. Donc on avait fait la chasse aux insectes en septembre 2017. C'était vraiment un très très bel événement. Et après, on avait eu l'autorisation de traverser le parc pour les 10 bornes Usselloises à l'époque. Et donc oui, effectivement, on connaît.
Est-ce que ça apporte quelque chose à la ville de la partager avec des patients?
Oui. Alors moi, je dirais oui.
Oui, chez les patients qui, je pense, qui s'intègrent aussi un petit peu à la commune. Hein.
Oui. Voilà.
L'ouverture d'esprit.
C'est l'ouverture.
Et je trouve que c'est bien pour la jeunesse. De leur montrer que, voilà, qu'on n'est pas tous chanceux et que des fois on peut avoir l'âme fatiguée et qu'on a besoin d'aide. Voilà.
Ok, c'est cool ça. Ouais,
c'est ce que voilà, je préfère le citer comme ça parce que je pense que c'est vrai en vrai en fait. Souvent c'est pas un problème psychologique, c'est plus l'âme qui est tourmentée et qui engendre certaines conséquences.
Avez-vous déjà parlé avec des patients?
Oui, et j'en ai pris un une fois en stop.
Ah.
Oui, oui. Je l'avais déposé à Auchan, donc il m'avait dit qu'il venait d'ici, de la clinique, et ça ne m'avait pas posé problème. Et je le vois régulièrement faire du stop. Et on avait échangé aussi avec des patients lors des événements.
Quand ils viennent dans le centre, là, on discute avec.
Et ben,
je suis ravie d'avoir échangé avec vous.
Merci.
À bientôt.
À bientôt.
Prenez soin de vous.
Merci.
La seule émission qu'on cherche.
Qui se barre.
Qui fugue.
Alors, du coup, qu'est-ce que vous en pensez de ce petit reportage qui était symétré par moi et puis Nicolas, ce qui veut parler. Tenez, je vous donne le micro.
Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé ce petit reportage. Merci beaucoup pour votre travail et l'émission qui me paraît être très importante. Je ne sais pas si c'est peut-être parce que je suis étrangère, mais l'expression « avoir une âme fatiguée » me paraît être très poétique et très humaniste. Je pense que nous avons vraiment besoin de parler des sujets comme ça aujourd'hui. Et puis moi, je suis historienne, donc le sujet m'est pas tout à fait familier, mais en tout cas, je m'intéresse beaucoup au traumatisme historique et aller comme ça un petit peu dans le détail, c'est vraiment très chouette. Donc je serai abonnée de votre chaîne.
Et ben, c'est sur Studio ZEF, lundi à 14h, si vous voulez. Vous allez dans le site Studio ZEF normal. Il y a d'autres personnes qui veulent dire quelque chose par rapport à ce reportage, ce que vous en pensez? Ah, il y a monsieur. Je ne vous ai pas vu.
Bonjour. Alors moi, je m'appelle Guillaume. Dans ma vie actuelle, je suis adjoint à la maire de Strasbourg et je suis en charge de la politique jeunesse, entre autres. Et du coup, je voulais déjà voir le concept de radio mobile qui était développé. Et sur la santé mentale d'autant plus. Et ce que j'ai bien aimé dans l'expression, c'est que souvent avec les jeunes actuellement, c'est plutôt une population dont qu'on rejette, dont on se méfie, qu'on aborde souvent par ses problèmes. Elle fait du bruit, on ne sait pas où quoi en faire, on ne sait pas où les caler dans la ville, tout ça, tout ça. Et en fait, on a beaucoup de mal à aborder la jeunesse par son potentiel et par ses qualités. Et ce que je trouve vachement intéressant dans ce que dit cette dame, c'est qu'elle voit que les qualités en fait de travailler avec l'asile, l'intégration dans la ville. Et elle est très contente de vous voir. Et ça, c'est rare. Donc déjà, bravo, bravo pour tout ça. Et si vous avez la recette pour le faire ailleurs, moi, je prends.
Eh ben, merci beaucoup tout le monde. Et puis n'hésitez pas à nous suivre sur la page de Studio CF.
Merci Théo. Donc on va essayer de reprendre le fil de notre interview. Donc la psychiatrie accueille des êtres dont la ville ne veut pas, qui était en plus dans le thème de la question de l'intervention du monsieur. Peut-être que la psychiatrie n'existe parce que la ville va mal. La psychiatrie peut-elle aussi soigner la ville ?
Oui, vous auriez pu me prévenir avec cette question. Mais attention aux préjugés, parce que nous savons qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vivent à la campagne, qui se suicident. Il y a beaucoup de paysans qui, devant la météo et la gravité du risque de la disette, de la non-récolte, ferment et meurent. Donc, je crois qu'il faut être prudent. Bien sûr que cette question arrive avec le thème des rendez-vous d'histoire. Bon, la ville peut évidemment générer de la souffrance. Alors, ce que je trouve intéressant en ce qui nous concerne à la clinique du Sommerie, c'est que être à la campagne est un vrai facteur de soins. Être à côté d'une forêt, dans un château, donne la possibilité de vivre l'espace-temps de façon différente et un vrai repos. Pour autant, ça n'est pas seulement une bulle. C'est la question que cette bulle, un jour, il va falloir l'ouvrir. Mais quand on a été trop fracturé dans sa vie, pour des raisons multiples, pas seulement à cause de la ville, il faut avoir le temps de se soigner. Or, la question du rythme, de la vitesse, la perte de rythme au profit de la vitesse, au profit de la cadence, crée vraiment des problèmes de construction de la personnalité dans son environnement. Donc je pense que cette question, elle est complexe. Il ne faut pas la réduire la faute de la ville ou la faute de la campagne. C'est plus compliqué. Maintenant que la ville aille mal, je ne sais pas si c'est la ville ou ce que les gens font de la ville. Est-ce que c'est l'économie qui doit présider à la gestion de la ville ? Comme on fait dans la santé actuellement, c'est plus l'économie qui gère la santé plutôt que la relation humaine. Alors la psychiatrie peut-elle soigner la ville? Je ne sais pas. En tout cas, la psychiatrie devrait soigner la psychiatrie. Parce que la psychiatrie va très mal dans la mesure où l'asile ferme. Et ça, c'est peut-être une autre question. Je pense que c'est la suivante.
Quelqu'un a triché.
Mais en tout cas, c'est des choses extrêmement compliquées. On part, la sémantique compte, à la Révolution française, ça s'appelle des bureaux de bienfaisance. C'est-à-dire qu'il faut s'occuper de la population misérable. Et donc on regroupe les gens pour essayer qu'ils aient à manger. La soupe populaire, si vous voulez, mais aussi les héberger. Et puis, ce bureau de bienfaisance à Blois, il se transforme en asile à Blois seulement en 1860, presque 80 ans après la Révolution française. Alors que dans d'autres départements, il y a déjà des asiles, notamment dans le Loiret. Puis, en 1938, l'asile départemental, il y a une grande réforme en France, l'asile s'appelle hôpital psychiatrique. Sous le Front populaire. Donc il y a tout un mouvement de modernisation. Et puis la Deuxième Guerre mondiale arrive. Donc ça freine Mais tout le mouvement de rénovation de la psychiatrie était lancé avant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis dans les années 90, je crois, l'HP devient établissement public de santé mentale. Et donc toute cette évolution sémantique rend compte aussi d'une, si vous voulez, d'un espèce de flux où l'asile a grossi en hébergeant beaucoup de monde, et puis maintenant doit diminuer, réduire les durées de séjour et de devenir des centres de crise. Donc là, il y a une évolution qu'on peut qualifier positive d'un certain point de vue, mais aussi très risquée d'un autre, puisque la vraie souffrance psychiatrique structurale qui ne disparaîtra pas, quoi qu'on le décide politiquement, risque de passer entre les mailles du filet. Bon, ce sont des questions que l'aliéniste que je suis, avant d'être psychiatre, c'est-à-dire travailler sur l'étrangeté de chacun en soi et de l'étranger en l'autre, pose vraiment une question de politique. Or, politique de la vie et politique de santé, à mon avis, se croisent. Mais politique des campagnes aussi. Hein, politique de la ruralité. Mais voilà, on ne peut pas faire l'impasse, à mon avis, sur la manière dont on traite la souffrance psychique. Et ce n'est pas à coup de mot humanisme qu'on va résoudre la question.
Eh bien, je vous remercie, Antoine Fontaine, d'être venu nous parler de votre travail sur Maurice Olivier, que vous avez publié dans un ouvrage qui s'appelle « L'optimisme au chevet de la déraison », je crois, c'est bien ça.
Oui, l'œuvre psychiatrique de Dr Maurice Olivier, maire de Blois.
Voilà. Oui, Nicolas.
Mais peut-être j'allais te couper la parole. En fait, cette situation de la clinique de Sommery à la campagne, un petit peu reculée, retirée du monde, j'ai l'impression que c'est un avantage quand on y arrive pour le repos. Et en fait, c'était peut-être un moyen d'introduire, peut-être sans trop le dire, la deuxième partie, dans le sens que ce côté reculé de la ville peut-être être un frein à un moment ou une difficulté pour sortir, en fait, parce que Huisseau, c'est à 15 km de Blois, et si on veut aller à Pôle emploi, bah, c'est à 15 km, si on veut aller à la boîte d'intérim, si on veut aller...
C'est sûr que si on supprime les bus pour relier la campagne à la ville, on va empêcher que les rats des champs dînent avec le rat des villes.
Donc il n'y a plus de murs autour de l'asile, forcément, comme avant, mais il n'y a plus de bus non plus. On progresse. Merci Antoine Fontaine, je redonne la parole à Annaëlle qui va vous présenter les camarades de la TESI qui vont nous suivre.
Je vous présente d'abord quelqu'un qui s'inscrit dans le paysage de Blois par ses slams. Il s'appelle ADN et il a écrit un slam pour vous aujourd'hui qui s'appelle « Slam ma ville ».
Je marche vers l'horizon pour être en devenir. Je me suis fait une raison, la ville, mon avenir. Pas très loin de la campagne, j'ai trouvé mon bonheur. C'est avec ma compagne que je vis en plein cœur. Au centre de cette métropole, je regarde les gens passer. Certains sont drôles et rigolent et d'autres sont pressés. La nuit fait place au jour dans cette scintillante ville. Je ressens comme de l'amour par ma plume si habile. De la gare au château royal, il n'y a que deux pas. J'ai vu tant de festivals qui se passaient là-bas. Dans le centre des magasins, ils ouvrent de bonne heure. Nous sommes déjà le matin, réveillés depuis une heure. J'entends sonner les cloches, j'attends encore mon bus. C'est pas très loin de l'avenue Foch, c'est une rime, rien de plus. La Loire n'est pas loin, j'entends ses flots couler. Elle est sur mon chemin, je travaille à côté. J'écoute le bruit des voitures et des camions qui passent. La plume vers une aventure qui aujourd'hui me dépasse. Arrivé au printemps, fleurissent les massifs. J'apprécie ce moment, je le trouve immersif. Le parfum des rosiers se révèle, me plongeant dans le bonheur. Des notes de rosée s'éveillent, ça me va droit au cœur. Sur les marches de Nipapin, des artistes se dévoilent par des mots et des dessins brillants de mille étoiles. Voici ce que mes yeux voient, c'est un slam que je dédie pour ma ville nommée Blois, où je mène une belle vie.
Sur Studio Zef,
de 14h à 15h, tous les lundis,
La Grande Fugue. l'émission qu'on cherche, qui se barre, qui fugue.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur la deuxième partie de l'émission qui portera sur la Tessie. Je me présente, je m'appelle Alix et non pas Henri. Je suis actuellement à la recherche de ma vocation, mais en tout cas je suis dans la vie, je suis passionnée par la danse. Et maintenant nous allons faire un tour de table de nos invités d'aujourd'hui. Donc Thomas, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ?
Bonjour, moi c'est Thomas, du coup je suis animateur ou travailleur dans l'éducation populaire, donc voilà, j'accompagne des groupes à élaborer des projets et à travers des dynamiques coopératives.
Juno, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ?
Bonjour, moi c'est Juno, j'ai 20 ans et je suis un peu la surnommée de le maître clown égaré du système en quête d'horizon. Je suis également membre de la TSI et je fais aussi partie de l'hôpital de jour à Sombri.
Isaline, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ?
Alors bonjour, moi c'est Isaline, j'ai 24 ans. Je suis slameuse blésoise et aussi je suis chargée d'accueil touristique dans le milieu touristique. Je suis également suivie par l'hôpital de jour de Sombri et j'ai rejoint récemment la TSI. Et puis voilà.
Bonjour, moi je m'appelle Alice Rousseau et je suis psychiatre et clown à Sombri.
Gaëlle, est-ce que tu pourrais te présenter ?
Merci Alix. Bonjour, moi c'est Gaëlle. Alors je suis issue de l'éducation spécialisée. J'ai été très longtemps chorégraphe et là je fais une halte à Sombri pour recharger mes batteries et respirer à plein poumon. Voilà, et j'ai entendu parler du groupe Tessi, on va vous le présenter à l'instant.
Merci beaucoup pour vos présentations. J'avais une question pour Alice et Gaëlle. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ce qu'est la Tessi ?
Oui. La Tessi, c'est un acronyme dont on est très fiers, qui vaut pour Tessi, terrain d'expérimentation, de création et d'initiative. Et alors la TSI a été créée par un groupe de personnes que je vais appeler les Sommerois. Quand je dis les Sommerois, c'est des personnes qui sont à Sombri, soit parce qu'elles y travaillent, soit parce qu'elles y sont soignées. Et c'est une manière de nommer le fait que la création de la TSI s'est faite de manière paritaire, soignant-soignée. Donc on s'est réunis régulièrement depuis un certain temps, pour réfléchir à une problématique qui traverse les personnes qui sont hospitalisées à Sombri, c'est comment on sort de là. Donc quand on est hospitalisé à Sombri, dans cette belle cloche d'argent où tout est merveilleux et où on nous accueille inconditionnellement et où on peut être chelou à notre guise, sortir de là, c'est quand même un peu compliqué. D'autant que pour sortir, il y a le cercle vicieux infernal qui consiste à chercher un emploi pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir avoir un travail, pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir avoir un emploi. Et puis en fait, c'est impossible de s'en sortir puisqu'il faut déjà un bus pour aller à l'entretien d'embauche. Et puis il faut de l'argent pour pouvoir prendre le bus, pour pouvoir avoir un appartement, pour pouvoir avoir un travail. Enfin bref, du coup, on a beaucoup réfléchi à comment ne pas enfermer les gens à Sombri. Parce qu'on a envie de les accompagner à vivre bien, mais pas seulement à Sombri, aussi à vivre leur vie. Donc c'était la question de créer un trait d'union avec la cité, d'où l'acronyme TSI. L'idée était du coup d'amener un petit peu de l'esprit de Sombri dans la ville et que ça puisse être au bénéfice des personnes de Sombri, mais aussi de la population générale, de personnes précarisées pour plein d'autres raisons que la souffrance psychique. Et donc l'idée c'était d'avoir en fait, un espace de rencontre, de mise en lien, un espace d'accueil inconditionnel. Il y a une punchline qui est sortie il n'y a pas très longtemps lorsqu'on brainstormait sur c'est quoi la TSI, et c'était accueillir le chelou des chalands, ou prendre le temps d'être chelou. Et donc ça s'est monté petit à petit, à force de se rencontrer. On a créé l'association en décembre dernier. C'est toujours très difficile de parler de la TSI puisqu'elle est en pleine construction et qu'en fait, comme notre présidente le dit très bien, construire la TSI tous ensemble, c'est déjà la TSI. Le principe, c'est de le faire ensemble. Et donc, c'est une association qui est camarade de Sombri, mais c'est une association qui est complètement sortie de Sombri. C'est pas un lieu de soins, c'est pas un espace sanitaire. C'est une association où on se retrouve en tant que citoyen et si, par ailleurs, on est patient ou soignant de sommerie, dans cet espace-là, nous sommes des citoyens égalité et on peut remettre en mouvement les statuts et les fonctions. C'est-à-dire que nous ne sommes plus patients face à un soignant, on peut se redéfinir, se reparler et se re-raconter un peu différemment. Que dire de plus ? Si, on a une punchline qui explique plutôt bien ce qu'on essaye de fabriquer à la TESI. C'est une citation de Paulo Freire qui dit « Personne n'éduque personne, personne ne s'éduque seul, les êtres humains s'éduquent entre eux par l'intermédiaire du monde. » Et la TESI s'est proposée que ça soit une interface du monde où on puisse apprendre à apprendre ensemble. Je passe la parole à Gaëlle, qui a été dans les tout débuts de la TESI et qui peut peut-être nous raconter comment elle l'a vécu.
Merci Alice. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, quand tu nous en as parlé, j'étais très intéressée par l'idée parce qu'il n'y avait pas de cadre défini, il n'y avait pas d'objectif à atteindre, il n'y avait pas de ligne de conduite, mais on savait qu'ensemble, on avait une page blanche et sur cette page blanche, il y avait ces quatre lettres TECI pour toutes nos créations, nos initiatives. Et ce que j'ai aimé, c'est de partir de rien et de se dire collectivement, on va se faire confiance, on va essayer de voir ce qu'on peut mener en dehors de sommerie comme action ou partenariat avec d'autres collectifs.
Merci beaucoup Alice et Gaëlle pour ces explications. Nous allons maintenant poser des questions à Juno, Isaline et Thomas, sur vous, qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à la TESI concrètement ?
J'ai mis beaucoup de temps à vraiment m'imprégner de la TESI et à m'explorer un peu dans cette bulle fantastique. Pour moi, la TESI, assez rapidement, c'est un échappatoire. Face à mon propre parcours de vie assez chaotique. C'est un androme d'une place, autrement dit une place où il n'y a aucune notion de jugement, ni de critique non constructive. C'est des notions qui sont bannies de nos pensées. C'est un endroit de libre sens pour moi et qui me permet aussi de me déconstruire sur ma vision d'apprentissage et de mise en place de projets de vie qu'on m'a sans cesse rabâché dans mon passé. C'est aussi un endroit où tout est possible sans avoir peur de l'échec et sans que ça me nuise aussi à ma propre santé mentale et physique. On essaye du moins. C'est aussi un petit monde où on me donne le droit d'exister avec mes handicaps, mes idéologies, mes lacunes. Et c'est aussi un endroit où j'ai ma place, où on me considère en intégrité. Sans pour autant en fait sujet à des stigmatisations. Donc en soi, en fait, pour moi, la TESI, c'est un peu l'exception à la règle de notre société actuelle, qui brise les codes, qui brise nos barrières. Et c'est là tout l'art de pouvoir construire, reconstruire un projet collectif, quel que soit le type, en toute sérénité. Encore une fois, on essaye. C'est aussi, pour moi, un chemin à explorer pour apprendre à se connaître, à se découvrir, à se reconnaître dans des idéologies, dans des façons de penser, dans ce qu'on veut vivre. Et puis voilà, c'était comme moi, je voyais la TESI. Et du coup, toi, Thomas ?
Alors moi, qu'est-ce qui m'a donné envie de participer, enfin d'essayer de monter la TESI ? C'était surtout, du coup, quand j'ai rencontré Sommery et que j'ai commencé à m'intéresser aux questions des clubs thérapeutiques, de ces fonctionnements-là. Moi, je suis plutôt issu de l'éducation populaire, donc j'ai rapidement fait le lien avec ce que je connaissais bien, c'est-à-dire la pédagogie institutionnelle, donc le pendant éducatif de la psychothérapie institutionnelle. Et donc, on s'est rapidement posé la question de comment on fait du lien avec tout ça. Quelles sont les méthodes communes, qu'est-ce qui fait tronc commun finalement dans ces pratiques institutionnelles. Et c'est pareil, moi dans mon expérience professionnelle, j'ai été amené à travailler avec des publics qui ont plein de noms, empêchés, marginalisés, précarisés, aliénés, enfin comme vous voulez. Et du coup, c'était la volonté d'avoir un espace où on peut juste faire confiance au désir de ces personnes-là et avoir confiance dans le fait qu'elles ont les solutions à leurs propres problèmes. Et la capacité de verbaliser de verbaliser leurs problèmes et de trouver les solutions aux problèmes qu'elles ont découverts elles-mêmes. Et du coup, c'était vraiment ça, quoi. L'idée, c'était de créer un espace de liberté, un espace assez horizontal, et c'était aussi l'idée de créer un point d'entrée dans la cité et de se dire que finalement, l'idée, c'est pas de sortir de quelque part, l'idée, c'est de rentrer dans un tissu et c'est d'avoir un espace intermédiaire, un espace tampon, un espace ressource, une oasis dans lequel on peut venir se ressourcer, en ressortir, y revenir, en ressortir et être vraiment au cœur de la ville. Et qu'il y a une autre notion qui m'a intéressé, qui m'intéresse aussi, qui est une question qui nous traverse un peu tous, c'est la question économique. Antoine en parlait un peu tout à l'heure. Et donc voilà, comment on travaille ces questions-là, comment on travaille la reconnaissance économique et la valeur que crée le travail de ces personnes-là. Et puis il y avait aussi une idée un peu utopique de se dire que je crée aussi un outil pour moi, un outil dans lequel je me sens bien, dans lequel j'ai envie de travailler, et d'entraîner un peu tout un petit monde là-dedans, quoi. Voilà, c'était un peu mon ambition à la base. Et toi, Isaline, qu'est-ce que tu en penses ?
Alors moi, j'en pense que déjà, j'ai connu la Tessie par un éducateur de l'hôpital de jour de Sommerie qui, après mes multiples expériences dans mon professionnel qui sont plus ou moins bonnes, je me suis rendu compte que trouver sa place dans mon professionnel dans un milieu ordinaire, c'est compliqué quand on se rend compte de ses difficultés. Et du coup, j'ai entendu parler de la Tessie. Donc, l'association où on peut donner envie de créer des projets utiles pour les habitants de Blois. Et aussi, en même temps, ça donne une place, une place individuelle. Se dire on est utile, on se sent utile, parce que du coup, on reprend confiance en soi. On veut se dépasser en donnant du lien aux habitants de Blois, en se faisant connaître. Par exemple, quand j'ai entendu la question « Est-ce que la psychiatrie peut-elle aussi soigner la ville ?», moi, je dirais qu'elle peut participer, parce que en fait, ce qui nous réunit tous, c'est qu'on connaît tous l'endroit de Sommerie. Donc, je pensais un peu à vous, docteur Fontaine, quand vous disiez cette question-là. Moi, je pense que vous pourrez être le bienvenu. Ça vous ferait du bien de venir, de venir essayer la Tessie. Et et que je pense que ça, c'est utile pour, en plus ça concerne tout ce qu'on vit en ce moment, donc franchement ça rejoint toutes les valeurs humaines. Voilà.
Merci beaucoup pour vos réponses. Isaline, j'ai appris que tu faisais du slam et que tu avais préparé un slam pour aujourd'hui. Est-ce que tu serais d'accord pour nous le faire?
Oui, bien sûr, avec plaisir.
Merci beaucoup.
Donc, mon slam, j'ai intitulé Tessie, cité, c'est quoi l'idée ? Réunis dans les locaux de l'étendard, aussi lieu de hangar et toute forme d'expression, il n'y a pas de hasard, puisque nous avons tous en soi une part cachée par le brouillard, mais aussi plein d'espoir. Entre créativité et lien, nous voici réunis en liberté, basée sur la solidarité, formant une communauté qui prend soin de tous ses citoyens, propulsée par tous les âges et dans le partage, c'est au collectif de redonner une belle image. À cette société qui nous entraîne à nous insérer que plutôt de créer, d'innover, de tout réinventer, la tolérance et la bienveillance doivent être aujourd'hui une évidence. Le concept, c'est de s'entraider et non la rivalité. Autour des brainstorms se dessinent des idées pour tout remettre en forme. Des idées viennent de tous les sens. Tout devient alors une vive effervescence. Des projets qui partent en fusée, nous sommes dans une belle avancée pour faire renaître l'humanité. Décortiquant en fond et en large, collectivement avec tous ses avantages, déverrouiller le créatif grâce à la collaboration, carburer au plaisir des idées défranchies. Penser et créer un projet donne de l'ambition. Retrouvons cette envie de création après mûre réflexion suite de nos discussions. On pense collectivement avec la notion de prendre le temps, place à la coopération. Ainsi qu'à l'entraide intergénérationnelle, c'est aussi prendre sa place en accueillant cette lumière individuelle. Se créer un mouvement perpétuel, il est temps de changer à travers un canal solidaire qui vont transformer cette atmosphère dans un nouveau courant d'air.
Bravo Isaline. Bravo Isaline, c'était vraiment très beau.
Et j'ai une petite question. Où est-ce qu'on pourrait vous voir performer ou est-ce que vous postez quelque part vos slams?
Alors, on peut me retrouver à l'étendard avec le collectif Slamdi Slam, qui a lieu à peu près un samedi par mois. Et sinon, bah, j'écris un peu dans les passagers du divan du journal de Sommery et un peu personnellement. Enfin, on peut me contacter facilement.
Très bien, merci.
Et mon nom de scène, oui. Ah oui. Mon nom de scène, c'est A Fleur de Mots, M-A-U-X.
Finalement, la TSI, il y a plein d'associations qui sont dans les mêmes intérêts que vous. Et d'ailleurs, Gaëlle, j'ai entendu dire que tu avais réussi à trouver un lieu avec les mêmes centres d'intérêt que vous. Donc, je te laisse la parole pour nous expliquer un peu comment ça s'est passé.
Alors, comment ça s'est passé? Lors de ma première hospitalisation à Sommery, je me faisais tout un monde de l'extérieur parce que c'était loin, parce qu'il fallait tout y faire. Et petit à petit, je me suis rendu compte que c'était grâce au contact des autres que j'allais me sortir aussi la tête de l'eau. Donc je suis allée à la rencontre de beaucoup de maisons de quartier. Et à chaque fois que j'allais dans les soirées, on me disait, il y a un endroit incroyable qui s'appelle le hangar. Et de bouche à oreille, j'ai fini par savoir où était cet endroit. Et j'ai tout de suite pensé à Alice qui parlait d'un lieu pour accueillir la TSI et l'étendard qui avait les valeurs qui se correspondaient, enfin qui correspondaient beaucoup.
Bah justement, on a une invitée, c'est Sophie de l'étendard. Bonjour Sophie, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît?
Salut Alix, merci Gaëlle. Salut tout le monde, du coup moi c'est Sophie, je suis clown, je suis danseuse et j'accompagne des dynamiques collectives autogérées. Et je fais partie de ce joyeux groupe qu'est l'étendard.
Très bien, merci. Est-ce que tu pourrais définir pour les auditeurs et pour le public présent aujourd'hui ce qu'est l'étendard et pourquoi ce nom en fait?
Parce qu'il est venu le temps de l'art. Et puis on est à Blois, on est sur le fief terrain des rois et des reines, donc l'étendard nous paraissait un beau jeu de mots. L'étendard, c'est on a un groupe de personnes de tout horizon différent, des particules particulières, militants, militantes, utopistes, rois et reines de la débrouille. Et si on se réunit, c'est parce que on vit dans un monde dans lequel on se reconnaît pas forcément, ou en tout cas, il y a comme quelque chose qui crisse sous la dent, et on a envie de construire autre chose. On a envie d'aller vers ce qui nous rassemble, vers l'humain. Et c'est comme ça que l'étendard s'est formé il y a maintenant 10 ans et qu'il continue d'évoluer et qu'il se tourne vers l'extérieur. Donc quand tu arrives à l'étendard, tu es accueilli par la roulotte four à pain de notre boulanger. Ensuite, tu pousses la porte. Là, si tu regardes sur la droite, tu as une rampe de skate avec des décors de théâtre, un tapis, des peintures et puis quelques canapés. Parce que si tu as envie de venir te poser et boire un café, tu seras toujours le bienvenu. Quand tu regardes en face de toi, tu vois la batellerie, la sérigraphie, la céramique, l'atelier de menuiserie et l'atelier de mécanique. Et bien sûr, parce qu'on n'oubliera jamais de se culturer, la bibliothèque. Et enfin, quand tu regardes vers la droite, on a ce qu'on appelait avant le bocal, qui est maintenant une organisation avec des bureaux. Et à l'intérieur de ces bureaux, nous rencontrons notre cher ami Thomas de la TSI. Tout au fond, exactement. Et avec la TSI, c'est un vrai plaisir pour nous, en tout cas en tant que collectif, de travailler ensemble. Parce qu'on s'est rencontrés à un moment où on se posait les mêmes questions. Donc on est vraiment parti depuis nos besoins en tant que personne et la manière dont on avait envie de vivre dans la ville avec les uns et les autres.
Et comment on peut vous contacter?
Tu peux nous contacter par l'adresse mail letendard41@gmail.com.
Martha, une question pour Sophie. Vous avez parlé de l'étendard et j'aimerais bien savoir comment on l'épelle, s'il vous plaît, et où ça se trouve, s'il vous plaît.
Salut Martha. Donc l'étendard, ça s'écrit les, L-E-S, plus loin, temps,
T-E-M-P-S, plus loin, d'art, D-A-R-T-S. Et où est-ce qu'on se trouve ? On se trouve à Blois, en rive droite, en bord de Loire, tout proche du centre-ville.
Nous allons maintenant écouter un extrait qui s'est déroulé, d'une réunion qui s'est déroulée le 14 septembre. Elle a pris place au hangar dans l'étendard. Nous allons écouter le déploiement du point de l'ordre du jour concernant la création d'une tombola qui s'est en fait transformée en une maxi enchère clownesque. Attention. Et c'est parti.
L'idée de faire une tombola. Une tombola pourquoi ? Comme solution de financement pour la TSI et pour participer à l'effort de guerre de l'étendard. Alors, est-ce que quelqu'un a de l'expérience tombolesque ?
Bah, le principe, c'est que tu achètes des tickets et parmi ça, il y a des tickets qui sont gagnants et tu peux gagner des lots.
Ah. Voilà. Il y a des sous de 10 tickets en général. Et il y a des tirages au sort le long de la journée. Et d'habitude, c'est un panier garni. Bon, on fera peut-être autre chose, mais voilà.
On voit l'habitude déjà.
On va faire un panier pâté de sonnerie.
Des garnis.
Est-ce qu'il y a plein de questions ? Est-ce qu'on veut ça ? Ou est-ce qu'on veut plutôt une tombola un peu à échelle humaine où t'achètes un ticket et t'as quand même une chance de tomber sur un truc ?
Mais dans ce cas-là, il faut trouver des lots bateaux qui se reproduisent.
Du coup, on part d'abord des lots. On se dit, OK, combien on a de lots à la con et les quelques lots cool.
Moi déjà, ce que je pense qu'il faudrait que l'un d'entre vous de la TSI vienne à la réunion du mardi. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens à l'étendard qui créent et qui seront, à mon avis, motivés et enjoués de proposer leur lot. Je pense au Lucky Market, à notre ami Delphin qui nous fait les affiches et tout ça.
Et à Lola qui fait des blagues à tabac aussi.
Ouais, bien, ça pourrait être intéressant. Ça. Et on a un atelier couture à la clinique.
Ouais. Oui. Mais je pensais à un truc un peu universel, que qu'on fasse un truc, tu sais, comme pendant le Covid, on faisait les masques. Là, on peut faire, je sais pas,
des petits portefeuilles,
une banane, parce qu'on a un patron de banane, on peut faire des bananes, on peut faire des blagues à tabac.
On peut faire des bobs.
On peut faire des bobs.
Ok.
Tout le monde a eu de la part de tarte, si on voulait. Mmh. 127 lots.
Oh, 128. Déjà.
Ouais, bah faut arrêter.
Bah faut vendre au moins 128 tickets, quoi.
Ouais, c'est ça.
Pour ça, c'est fait.
Ça, c'est facile, ouais.
Oui, ça va se faire.
J'aime cette confiance.
Donc, en fait, on est en train de parler de faire un événement sur le mode un peu festif des enchères.
Ouais.
Vraiment drôle, ça, on peut se mettre sur la scène.
Ouais.
Oui.
Un beau costard, des huissiers et tout, on va trop se faire.
Ah, mais
oui, à fond. Et en fait, ce qui serait bien pour le coup, c'est que les personnes. Je sais pas, c'est les personnes qui font les sacs, ce soit elles aussi qui soient là pour présenter leur truc.
Ouais. Ouais.
Tu vois, du coup, ça les met vachement en valeur. Ouais. C'est de la promo carrément plus classe.
Avec le MC.
Ouais, voilà.
Chacun se présente avec son.
On est là à vendre nos produits pour essayer de faire monter les prix.
Ouais, voilà, c'est vraiment.
Non, mais attendez, là, je me suis quand même cassé le cul à faire ce tote bag.
Comment ça, 7 euros ?
Ouais, non. La grande fuite dans la radio. Une toile de rire. Ah bon ?
Donc, merci. Je vous laisserai les membres de la TSI réagir à ce petit extrait. Oui, il y a une question dans le public ?
J'avais une question sur le fait de savoir si je pourrais participer à cette association. Parce que franchement, d'après ce que j'entends dire, c'est que c'est vraiment bien. Et moi, je souhaite vraiment d'être participant.
Bienvenue Théo à la TSI quand tu veux.
Okay.
La prochaine réunion, c'est samedi 19 octobre à 10h à l'étendard. Donc t'es le bienvenu. On va justement parler des maxi enchères pour organiser tout ça.
Ok, bah moi je serai.
Eh bien merci. Nous allons maintenant laisser réagir les membres de la TSI. Qu'est-ce que vous ressentez après avoir écouté ce reportage ? Si quelqu'un veut commencer, allez-y.
Bah, je pense que Théo a tout dit, quoi. On a envie d'y aller, c'est déjà pas mal.
Ok, donc...
Vas-y, pardon.
Non, mais peut-être ce serait intéressant que... Parce que donc, toi, Isaline, c'est la première fois que tu es arrivée à la TSI, c'était justement cette réunion-là, donc peut-être tu pourrais nous dire quelques mots.
Déjà, quand j'ai trouvé que c'était à l'étendard, déjà, j'ai trouvé que l'endroit était chouette et cool. Et puis, déjà, le fait qu'on se retrouve tous ensemble dans un autre lieu que celui de Sommery, où on enlève, où c'est fait, où on enlève les stigmatisations, les étiquettes et tout, et qu'on passe sur un autre projet utile pour les gens de Blois, les habitants, et qu'on parle de plein de projets, qu'on réfléchit ensemble. Il y a beaucoup de bienveillance. Enfin, franchement, c'est merveilleux. Et quand je vois, et puis pour moi, c'est une porte d'entrée. Une porte d'entrée qui donne envie de créer, d'être un peu comme, de retrouver des valeurs qui ont été enfouies pendant longtemps. Donc les valeurs humaines, on veut aider, on veut coopérer ensemble. Et bientôt, j'espère, enfin normalement c'est bon, on va pouvoir créer un projet, sortir le projet, et puis on sera un peu les héros de Blois du coup.
Merci beaucoup à tous d'en avoir parlé si franchement. Et pour conclure, en fait la TSI, de mon point de vue, c'est comme, j'ai entendu du coup à quelques réunions qu'on a eues, c'est comme un terrain vierge, où chacun vient monter sa petite cabane et les autres vont venir changer des choses, toujours en accord avec l'autre et toujours dans le respect de l'autre. Et en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment comme si on disait ensemble, on est toujours plus fort en fait. Et voilà, donc pour moi, c'était quelque chose de très beau. Merci à nos invités d'avoir parlé pour cette émission et bonne journée à tous.
Eh bien voilà, Maurice Olivier est maintenant connu par vous, autant maire de Blois que de la clinique de Sommery. Et la TSI est une belle façon de réunir tous ceux qui aiment créer. C'est vertueux et nous sort de notre isolement, quoi de plus sain.
La Grande Fugue, la radio, la seule émission qu'on cherche,
qui se bat, qui fugue.
Alors, on va finir par un petit agenda. Donc, le lundi 4 novembre, il y aura la diffusion de cette émission sur Sud-Osièvre, comme a pu vous le dire Théo. Et en fait, c'est on fait une émission par mois qui est retransmise tous les lundis, 14 à 15 heures. Et vous pouvez nous écouter sur 91.7.1. Point 7, c'est Vendôme, ouais. Vous pouvez retrouver nos pérégrinations radiophoniques à Stockholm, où nous avons rencontré la radio Total Normal dans la revue des Nouveaux Cahiers pour la Folie, que vous pouvez procurer sur le site des éditions EPEL, E-P-E-L. Pour trouver le livre d'Antoine Fontaine, il suffit d'aller à l'abbé. Ou vous pouvez le commander, il est en train d'être constitué en e-book. Je peux vous donner aussi le contact de la clinique, si vous voulez l'acheter par le contact de la clinique, c'est contact@sommery.fr. Et l'adresse de la TSI, c'est tsi.blois@pm.me. Et nous avons une page Facebook. Donc vraiment, merci à tous d'avoir participé à cette conférence. On est très heureux de vous avoir rencontrés. On vient de vivre un beau moment. On remercie toute l'équipe du Festival des Rendez-vous de l'Histoire qui nous accueille chaleureusement. Et France Culture qui nous soutient dans ce projet. Et puis une petite spéciale dédicace à toute l'équipe de la Grande Vue qui n'a pas pu venir avec la totalité de son équipe aujourd'hui.
La Grande Vue, la radio.
Et bien entendu, un grand merci à Studio Zef. À bientôt sur les ondes.